Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Patera, le débat politique de Radio Ndékéluka. Nous débattons aujourd'hui des agitations de groupes armés à 3 mois, des élections groupées dans le pays, à l'exemple des 3R, actifs dans les préfectures de l'Ouampéndé, de la Namambéré et une partie de la Namambéré KDI. Le gouvernement a lancé une opération conjointe FAKA-MINUSCA dénommée à la Londo contre les positions des éléments armés des 3R dans la Namambéré et l'Ouampéndé. Le gouvernement et la MINUSCA ont annoncé le succès et la destruction des bases des 3R. Comment expliquer aujourd'hui les caprices des groupes armés à l'approche des élections de décembre prochain? N'est-ce pas un défi lancé au gouvernement? Que fait le gouvernement pour la sécurité des Centrafricains, des villes de province et surtout des régions de l'Ouampéndé? Quel est le résultat de l'opération à la Londo lancée contre les positions des 3R? La MINUSCA a-t-elle réellement la volonté d'aider le gouvernement à ramener la paix dans le pays? Est-il difficile à la MINUSCA est au gouvernement d'arrêter Abassi Diki ou de l'anéantir afin de le ramener à la raison? Que disent les clauses de l'accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés à ce sujet? N'est-ce pas une violation flagrante de cet accord? Si oui, pourquoi ne pas sanctionner ceux qui en violent les dispositions? Voilà tant de questions qui feront l'objet de notre débat politique Patara de cette semaine. Eh bien, pour en débattre, nous recevons sur ce plateau M. Martin Ziguele, député de Bukalanga 3 et président du Mouvement de libération du peuple centrafricain, MLPC. Monsieur Martin Ziguele, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs et toutes vos auditrices et à mes co-débatteurs.
Merci beaucoup. Monsieur Fidel Gwandika, conseiller spécial du président de la République. Monsieur Gwandika, bonjour.
Bonjour.
Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Monsieur, bonjour aussi à vous.
Bonjour.
Et docteur Paul Cressant Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Au centre du débat, je suis Armand Douyang Gendi et le débat, c'est dans un instant.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndékéluka.
Mais avant de commencer, Rodrigue Leroy-Benga est avec moi ici au studio. Rodrigue, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous.
Rodrigue, un aperçu très rapidement sur les dernières agitations des groupes armés.
Oui Armando, comme vous l'avez dit, depuis 3 mois, le gouvernement a lancé une opération conjointe FAKA-MINUSCA dénommée à la Londo contre les positions des éléments armés des 3R dans la Namambéré et l'Ouampéndé. Le gouvernement et la MINUSCA ont annoncé le succès et la destruction des bases des 3R. Or, depuis ces derniers temps, ces hommes armés ont multiplié des exactions dans l'Ouampéndé. Il s'agit des attaques contre les symboles de l'État, des embuscades tendues aux forces armées centrafricaines FAKA. À titre d'illustration, pas plus tard que lundi dernier, ils ont fait incursion à Bouang, localité située à 70 km de Bokaranga. Ces hommes armés ont saccagé la gendarmerie de la localité avant de brûler les sujets des épreuves écrites du brevet des collèges gardés dans le bureau du chef de la dite brigade. Entre-temps, mercredi surpassé, les FAKA étaient tombés dans une embuscade des 3R au village Saint-Antoine sur l'axe boire Bokaranga. Bilan, 9 soldats blessés et 2 de leurs véhicules brûlés. Et les 3R ont poursuivi leur bonhomme de chemin jusqu'à Bosomtélé où ils ont intercepté 3 gros camions en direction de Bangui. Là, c'était mercredi 9 septembre. Ils ont tué un apprenti chauffeur avant d'incendier 2 véhicules au village Bekadili. De plus, Armando, il y a 2 semaines, un policier et son auxiliaire en service à Bang, dans la sous-préfecture de Ngaoundaï, sont enlevés toujours par les 3R. Leurs parents, jusque-là, exigent du gouvernement leur libération. Toutes ces agitations des groupes armés et des 3R en particulier font régner du doute dans les esprits quant à ce qui concerne la bonne tenue des élections dans la quiétude. Et on se pose des questions, Armando.
Rodrigue, on se pose des questions. On va les poser à nos invités ici autour de la table. Mais avant cela, nous tenons à informer nos internautes et nos auditeurs que nous avions invité le conseiller en communication du Premier ministre, mais il a désisté au dernier moment. Ouvrons ce débat avec vous, M. Fidel Gwandika. Quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire actuelle dans le pays?
Merci. Au lendemain du 30 mars, juste après l'investiture du professeur Faustin Archange Touadéra, président élu démocratiquement parmi 30 autres candidats, le pays était dans le chaos. Les groupes armés occupaient, je pourrais dire, 100% du territoire centrafricain. Parce que certains disent 80%, mais ils ont oublié Bangui. Hein. Il y avait des groupes armés déguisés sous forme de autodéfense au kilomètre 5, dans le 8e arrondissement, à Boerab, ceux qui faisaient les cousquettes, volaient les choses, perturbaient la quiétude de la population. Et donc, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, et graduellement, la situation sécuritaire est aujourd'hui meilleure qu'il y a 4 ans. Et cela avec le concours plutôt de la MINUSCA, de l'Union européenne et de nos forces armées qui n'existaient pas avant le 30 mars 2016 et qui aujourd'hui montent en puissance pour ramener la quiétude dans le pays. Et je pense que la situation sécuritaire à la veille des prochaines échéances électorales est tout de même appréciable. Voilà ce que je peux dire d'entre nous.
Merci beaucoup. Nous allons reposer la même question à Martin Ziguele. Vous êtes député de Bukaranga, là où sévit encore Abba Siddiqui avec ses éléments. Quelle lecture faites-vous actuellement de la situation sécuritaire dans le pays et surtout beaucoup plus dans Luampindi?
Je vous remercie. Je voudrais d'abord, comme vous avez évoqué tout à l'heure des cas d'attaque, d'enlèvement, de décès, je voudrais m'incliner déjà à la mémoire de celles et de ceux qui sont tombés et qui sont des Centrafricains, et puis partager la douleur de ceux qui sont blessés, notamment les éléments des forces armées centrafricaines qui sont tombés dans une embuscade lâche à Santouane, à 10 km de Makoundiwali. Je n'entrerai pas dans un débat pour savoir est-ce que la situation sécuritaire a avancé ou n'a pas avancé. Le meilleur juge dans cette affaire, c'est les citoyens qui vivent sur le terrain, parce que c'est eux qui peuvent nous dire leur sentiment par rapport à la progression sécuritaire. Mais il y a une chose, qu'il faut noter, c'est que la mobilisation est plus forte aujourd'hui. Et je m'en réjouis, y compris de nos amis de la MINUSCA, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques mois sur les problématiques sécuritaires. Mais il ne faut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Dans la situation centrafricaine face aux groupes armés, nous sommes dans une situation atypique. Nous sommes en face de groupes armés dont le commandement est constitué de mercenaires étrangers. C'est une répétition, parce qu'un mercenaire est toujours étranger, mais je fais la répétition pour souligner la caractéristique principale. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en face de groupes armés constitués de Centrafricains qui, dans une démarche politique, poseraient des revendications armées et avec qui on peut aller très rapidement lorsqu'on adresse leurs revendications arrivées à la paix. Donc, nous avons affaire à des mercenaires qui ont d'autres motivations, qui sont plutôt économiques et qui ont utilisé l'accord de paix comme un leurre. Je vous rappelle, et je m'arrête là-dessus,
oui,
au mois de février 2020, c'est-à-dire
cette année,
j'étais parti à Bukaranga et j'accompagnais des collègues députés à Man. Et à 19 km, à Bourdoul, on est tombé dans une embuscade. Je rappelle que j'ai fait mon service militaire en 1979, donc je connais un peu les armes. Quand j'ai vu l'armement de ceux qui nous ont arrêtés, la première chose que j'ai faite quand je suis revenu à Bukaranga, c'est d'appeler le Premier ministre et de lui dire que ce que j'ai vu là, et par rapport aux déclarations des groupes armés selon lesquels ils étaient engagés dans un processus de DDR à boire, il faut faire attention. La suite nous a donné raison. Pourquoi ? Je ne le dis pas pour dire que oui, j'ai raison.
Oui, et rapidement, oui.
Voilà, mais c'est pour dire que nous avons à faire à des personnes qui, le moins qu'on puisse dire, ne sont pas des enfants de cœur et devant lesquels il faut la plus grande fermeté. Et nous reviendrons là-dessus sur les...
Merci beaucoup, Monsieur Vladimir Montero. Vous êtes porte-parole de la MINUSCA. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation sécuritaire dans le pays, vous qui accompagnez le gouvernement dans ce processus du retour à la paix?
Ben, écoutez, il ne faut pas se voiler la face. Si on regarde l'actualité, si on regarde ce qui se passe dans le Nord-Ouest, ce que vit la population, c'est-à-dire les violences de ce groupe armé, un groupe signataire de l'accord, on peut se dire qu'il y a encore des problèmes. Nous sommes les premiers à le reconnaître avec nos partenaires, le gouvernement centrafricain, et nous travaillons pour que cela soit résolu. Mais, comme l'a fait au tout début M. Gwanjika, on est parti d'une période où l'insécurité était partout.
Très galopante.
Et regardez aujourd'hui ce qui se passe à Ndélé, ce qui se passe à Bria, ce qui se passe à Kagabandoro avec le DDR qui démarre. Or, le DDR, dans ces villes, est le résultat d'un accord de paix lancé par les autorités centrafricaines pour apporter une solution à cette sécuritaire. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, marquées notamment par le déploiement des FACA, on pourra revenir là-dessus, le déploiement des forces de sécurité intérieure avec le soutien de différents partenaires, la MINUSCA, le UTM, la Russie, la France, les États-Unis et la Chine pour ce qui est des équipements. Mais il y a eu énormément de progrès, même si, par ailleurs, il y a des points chauds et nous essayons d'y répondre, notamment avec l'opération Alalondo.
Effectivement, docteur Paul Cressan-Beninga, vous êtes de la société civile, vous êtes porte-parole. Au regard de la situation actuelle, quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire en émo dans le pays actuellement à l'approche des élections groupées de décembre prochain?
Oui, on aura compris autour de cette table qu'à l'approche des élections, il y a une résurgence des violences et des foyers d'insécurité, notamment dans les régions de l'Ouham, Pendé et de la Namambéré. Mais je voudrais dire ici que si on advient à déplorer la résurgence des violences armées dans ces régions précitées, c'est principalement parce que l'opération conjointe lancée par la MINUSCA et le gouvernement, de mon point de vue, a été une opération inachevée. Je vais vous dire pourquoi ça a été une opération inachevée. L'idéal serait que le mouvement 3 heures soit décapité. Ceci permettrait d'éviter un certain nombre de regains de violence. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, on observe deux choses. La première, c'est qu'il y a des foyers d'insécurité qui ont vu le jour dans les régions de Loampindé, de Namambéré, hors de ces régions-là. Ces foyers d'insécurité ont vu le jour parce que les bases du mouvement 3 heures ont été démantelées, mais on n'a pas décapité le mouvement 3 heures. Ce qui fait en sorte qu'il y a des éléments incontrôlés qui créent des foyers d'insécurité dans ces zones et hors de ces zones-là. Deuxièmement, il y a également ce qu'on appelle, et le président Ziguela a effleuré la question ici, c'est la question du contrôle de nos frontières, notamment la question de la circulation des armes. On ne peut pas combattre un groupe armé et on ne prend pas des mesures pour pouvoir empêcher à ce que ces groupes armés puissent se ravitailler en armes. Et à partir de ce moment-là, ces points de faiblesse-là permettent effectivement au mouvement 3 heures de se repositionner. Et je finis en disant ici, le lien avec les élections, c'est que Sidi qui reste un acteur qui dispose des stratégies et qui cherche également à se faire reconsidérer parce qu'il y a un langage, un discours qui se tient, notamment par la MINUSCA qui dit qu'il faut faire revenir Sidiki dans l'accord de Khartoum. Et Sidiki exploite également cette situation parce qu'en créant ces foyers d'insécurité, c'est un message que Sidiki envoie au gouvernement, envoie aux partenaires techniques et financiers et notamment aux garants de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Ça traduit une volonté de dire que je dispose encore des moyens pour pouvoir vous faire réfléchir, venez vers moi, on discute. Et ça permet à Sidiki de tirer un certain nombre de gains, notamment politiques et peut-être financiers.
Vous avez parlé d'un message lancé au gouvernement ou c'est un défi lancé au gouvernement?
Oui, c'est à la fois les deux. C'est un message et c'est un défi lancé au gouvernement. Et je vous dis ici, il faut lire la stratégie de l'acteur. Sidiki qui se positionne dans une dynamique, dans une posture qui est telle que Sidiki qui veut discuter. Mais je suis de ceux qui pensent que Sidiki qui n'a plus sa place dans la République. D'ailleurs, il ne doit jamais avoir de la place dans cette République. Le président Martin l'a rappelé ici, c'est un mercenaire. Sa place n'est pas dans ce pays et il ne doit pas revenir dans l'accord politique pour la paix. Et sur ce point, je suis en total désaccord avec la MINUSCA qui plaide pour le retour de Sidiki qui est dans l'accord politique pour la paix, sauf si la position de la MINUSCA a changé entre-temps.
Merci. Vous êtes en total désaccord avec la MINUSCA. Je reviens vers vous, M. Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Paul Kessambeninga l'a évoqué ici, il parle d'une opération inachevée. Le groupe armé 3R change de mode opératoire et opère maintenant en mode coupeur de route. N'est-ce pas un échec pour l'opération Alalondo qui devait mettre hors d'état de nuire ce groupe armé?
Ce n'est pas un échec. L'opération Alalondo a été lancé à la mi-juin par la MINUSCA et par les autorités centrafricaines à travers les FACA, mais aussi les FSI. Et protéger les populations, pousser le 3R à revenir dans les positions occupées après la signature de l'accord le 6 février 2019, permettre la conduite des opérations d'enrôlement des électeurs dans cette zone et, d'une manière globale, que l'accord de paix soit respectée. Nous avons parlé des résultats de cette opération, les moyens engagés. Dr Beninga vient de rappeler l'expulsion par les forces conjointes de Sidiki et de ses hommes des principales bases. Face à cela, et devant les difficultés de mener l'enrôlement dans certaines zones, la MINUSCA, à travers la force et la police, s'est réunie avec l'état-major des FACA pour une nouvelle stratégie, cette stratégie de guérilla, et permettre la protection des populations d'une manière générale, mais aussi l'enrôlement des populations. Et je peux vous dire que cette stratégie a permis déjà le début de l'enrôlement à Besson, qui avait été empêché justement il y a quelques semaines. Donc ce n'est pas un échec et nous essayons sur le terrain d'y répondre.
Mais si on essaie de comparer le moyen que dispose la MINUSCA face à ce groupe armé depuis 3 mois que l'opération perdure encore, que la sécurité n'est pas vraiment totalement revenue dans la zone?
Écoutez, nous avons employé énormément de moyens. Nous avons utilisé nos casques bleus camerounais, bangladais qui sont habituellement dans cette zone. Nous avons déployé des Rwandais dont l'un est mort lors de l'explosion d'une mine. Nous rendons hommage à ce soldat et à tous les FACA et autres personnes mortes. On a déployé également les Portugais, on a déployé une force spéciale bangladaise, l'aviation sri-lankaise et l'aviation pakistanaise. Il y a eu des résultats parce que ce groupe a quitté ses principales bases. Mais nous, nous trouvons également, même s'ils ont des armes, nous nous trouvons devant des lâches, des gens qui prennent la fuite. des gens qui abandonnent la tenue parfois pour se mélanger aux populations. Or, cela rend également très difficile d'aller traquer quelqu'un qui cache son arme, qui cache son uniforme et se mélange à la population. Donc, je peux vous rassurer que les autorités centrafricaines, la MINUSCA, sont sur le terrain pour résoudre ce problème.
Merci beaucoup, M. Vladimir Montero. Avant d'écouter le sous-préfet de Bukaranga sur la situation sécuritaire dans sa région, nous posons cette question à vous, M. Fidel Gwandika. Les 3R défient-ils le gouvernement en ce moment?
Moi, je ne peux pas dire que les 3R défient le gouvernement. Les 3R ont perdu leur capacité de nuisance face à la montée en puissance des FACA appuyée par la MINUSCA aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, il ne s'agit pas d'une guerre où deux armées s'affrontent de manière conventionnelle. Nous avons affaire à une guérilla, à des gens qui ont perdu leur puissance de frappe et qui utilisent d'autres moyens de guérilla pour perturber la quiétude de la population. Et donc, c'est un conflit latent, c'est une guerre qui va durer en temps. Mais ce qui est important, c'est que ce groupe armé, et je le redis encore, a perdu une grande partie de sa capacité militaire et de sa capacité de nuisance.
Malgré les embuscades tendues au FACA il y a de cela quelques jours et les embuscades tendues au convoi au niveau de Boussemtel et tout ça.
Mais les embuscades, c'est quoi? Ça, c'est le mode opératoire des lâches, ça, c'est le mode opératoire de ceux qui ne se mettent pas en face de l'adversaire pour opérer. Et parlant d'embuscade, j'aime bien comprendre ce que l'honorable Martin Ziguele a dit parlant des embuscades. Vous savez que M. Martin Ziguele est celui qui prétend défier sur les ondes de la radio nationale ses responsables de groupes armés. Et donc, en principe, ces mercenaires-là le recherchent. Et donc, si M. Ziguele tombait réellement dans une embuscade de ces gens-là, il ne s'en sortirait pas vivant.
Oui, M. Paul Kassam-Beninga, je veux voir remuer la tête rapidement. Vous voulez réagir?
Non, il y a deux ou trois choses sur lesquelles je ne suis pas d'avis avec, avec M. Mwandika. Il est dans ce que je qualifie d'autoglorification, d'autosatisfaction. Dire aujourd'hui ici que le mouvement 3R est affaibli, c'est un fait. Mais se satisfaire de ce fait-là, je dis, faisons très attention. Pourquoi? Parce que du moment où on n'a pas réussi à décapiter le mouvement 3R, ce mouvement va très vite se reconstituer. Et se reconstituer, changer de stratégie fait partie de cette dynamique de reconstitution. Aujourd'hui, on parle de la guérilla. Mais je voudrais juste donner une piste de réflexion en s'agissant de la guérilla. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont changé de répertoire d'action que ça veut dire que la guerre va durer. Non, il s'agit tout simplement de penser la stratégie en tenant compte de ce glissement ou de ce basculement par le mouvement 3R. Je m'excuse très rapidement. Quand on voit comment est-ce qu'ils opèrent aujourd'hui, il faut mettre à contribution les chefs du village, les chefs du quartier, les chefs des communes, les maires, les autorités locales, et mettre à contribution également les forces de sécurité désormais. Parce que lorsqu'on va au niveau des frontières, on met beaucoup plus à contribution les forces de défense et les forces de la MINUSCA. À partir du moment où on est dans la guérilla, dans ce qu'on appelle généralement la guerre asymétrique, il faut maintenant mettre à contribution les forces de sécurité et ça permet effectivement de limiter le monde. Moi, je dis le gros souci aujourd'hui, c'est d'éviter à ce que le mouvement 3R puisse se reconstituer, notamment sur le plan armement. Si on réussit à empêcher le mouvement 3R à bloquer la voie du Soudan, la voie du Tchad, la voie du Cameroun et la voie du Congo aussi, ce n'est pas à négliger. Lorsqu'on réussit à avoir le contrôle de nos frontières et que ces mouvements armés ne réussissent plus à se réarmer, les fragiliser, ça devient très facile. Et on l'a démontré aujourd'hui, on a démantelé les bases du mouvement 3R, mais on n'a pas pu décapiter le mouvement. Si on a décapité le mouvement, je pense qu'on ne serait pas là en train de débattre de la guérilla, de cette guerre asymétrique. Donc il faut avoir espoir et dire ici que la guérilla ne va pas nous amener à avoir une guerre qui va durer 3, 4, 5, 6 ans. C'est une question de volonté et de stratégie.
Merci beaucoup, M. Martin Ziguele. Un commentaire très rapidement avant d'aller écouter le sous-préfet de Bukaranga.
Non, je connais la stratégie de communication de mon vieux frère Gwandika. Il veut déstabiliser en déplaçant les problèmes.
Mais non.
Nous étions 23 dans le convoi qui a été stoppé à Bourdoul ce 9 février 2020. Je veux dire, et même Siwo, qui est des 3R, a dit que ce n'était pas dans le but de nous tuer. Mais donc, s'il dément ce que l'autre affirme et confirme, je ne sais pas, c'est ça qui me perturbe. Mais je vais revenir à l'essentiel. Vous savez, le territoire dont on parle, ce n'est pas un grand territoire. Le Besso en Gaudaï, le Mana Bukaranga, ce n'est pas un grand territoire. Et je ne veux pas entrer dans les détails, mais moi je pense que le premier travail que la MINUSCA a fait était un travail indispensable de briser les colonnes vertébrales des groupes armés. Maintenant, il y a un deuxième travail qui doit être fait. C'est un travail
de ratissage. Et ce travail-là ne peut être fait, comme l'a dit Krishna, qu'avec l'appui des forces de défense et de sécurité centrafricaines. Parce que lorsque vous attaquez les principales bases d'un groupe armé de ce type, c'est comme si vous mettez du feu sur un essaim d'abeilles. Les abeilles se dispersent et vont piquer loin, etc. Donc ce n'est pas un phénomène surprenant. Donc maintenant, il faut rapidement passer à la deuxième phase, qui est celle de faire une opération conjointe avec les FACA sur le terrain pour faire en sorte que les éparpillements de ces groupes armés soient maîtrisés. Deuxième problème, ce n'est pas un secret. Tout le monde sait que Sidi Kié est déstabilisé. Qu'est-ce qu'il fait? La frontière du Cameroun à partir de Kouy, c'est à moins de 30 km. De Sangrélim à Mboudjou, au Cameroun, c'est comme d'ici, vous regardez les dieux là. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils passent la frontière la nuit, ils vont dormir dans les camps des réfugiés. Et le matin, ils viennent commettre des exactions en Centrafrique. Donc la question fondamentale à laquelle doit réfléchir la MINUSCA et leur propre force, l'état-major des forces armées centrafricaines, c'est de voir dans quelle mesure sécuriser effectivement la frontière après Sangrélim, à Mboudjou, pour empêcher l'entrée, la circulation des armes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. À Man, si vous connaissez la région, à moins de 7 km derrière Man, vous avez la rivière Mbéri, qui fait notre frontière avec le Cameroun. Cette rivière-là n'est pas gardée. Et c'est par là que entre les mercenaires qui sont recrutés par Sidi Kié et les armements, etc. Ngaoundaï, vous connaissez la ville de Ngaoundaï? Ngaoundaï est à 2 km du Tchad. Parce que après la ville de Ngaoundaï, vous arrivez au pont sur le Mini, c'est à 2 km de la ville, et après c'est le Tchad. Donc, il y a plusieurs opérations possibles qui doivent être faites pour sécuriser la zone. Et puis, il y a quelque chose d'important. Je profite de votre micro pour le dire. Il faut que les populations locales coopèrent avec les forces coalisées. Il faut qu'elle donne des informations aux forces coalisées. Parce que ce que M. Mantero a dit, c'est très important. Quelqu'un qui vit dans un village sait très bien, par exemple, que Ngwadika, il dort à Boerop et que c'est lui Ngwadika. Mais s'il y a quelqu'un qui vient, qui dit qu'il est le voisin de Ngwadika, Ngwadika est capable de dire que non, non, celui-là, c'est pas son voisin.
Okay, ce que vous dites là, c'est très important.
Oui, et ça permet, ça permet d'avancer dans l'identification de ces mercenaires.
Et rapidement, monsieur,
les forces qui viennent ne les connaissent pas forcément, puisqu'ils se fondent dans la population civile et ils reprennent leurs exactions quand les forces sont retirées, croyant qu'elles ont fait tout le travail. Il y a aussi ces aspects qu'il faut souligner.
Merci beaucoup, Rodrigue Leroy-Benga. En attendant d'écouter le sous-préfet de Bukaranga, monsieur Fidèle Gwandika, voulait réagir dans le même sens que monsieur Martin Ziguele, c'est ça?
Non, je voudrais féliciter monsieur Martin Ziguele pour cette suggestion
technique,
militaire et technique. Et je m'interroge pourquoi, M. Ziguele, vous ne faites pas une proposition au chef suprême des armées avec qui vous avez signé un accord pour la gouvernance de la nation. Vous êtes toujours dans la majorité. Ce n'est pas de venir seulement sur les ondes de Radio Ndekuluka pour étaler vos propositions. Faites une suggestion écrite au président de la République.
Mais cela n'empêche, puisque nous sommes
amis avec qui vous
Gwandika.
Avez signé un accord.
Monsieur
Je
Gwandika.
Pense que le président de la République qui reçoit la MINUSCA chaque semaine pour les stratégies et en plus ce que nous discutons au Conseil de défense et de sécurité de la République centrafricaine dont je suis membre, faites-nous cette proposition et nous allons décapiter le troisième qui écume dans votre circonscription électorale,
merci
monsieur
beaucoup.
Le président merci du MLPC.
Oui. Merci pour la suggestion.
Avant d'avancer,
c'est une suggestion patriotique. Merci.
Merci beaucoup. Avant d'avancer dans le débat, je vous propose d'écouter le sous-préfet de Bukaranga. Il a été joint par vous, Armando Djangidi. Monsieur Esaïe Banet, il parlait sur l'opération lancée par la MINUSCA dans la sous-préfecture de Bukaranga.
Oui, en voyant ce qui se passe sur le terrain, vraiment, il y a un peu une inquiétude. Vous savez, au début, quand les Portugais ont eu à pénétrer dans la ville de Gaulle, c'est-à-dire il y avait un peu de certitude de la part de la population. Et puis après, quand ils se sont repliés, il y avait un peu de la suppose qui avait regagné la population de Kouy, tout comme celle de Bukaranga et de Ngaoundaï. Voilà encore ce petit temps de retrait des Portugais a fait à ce que les ennemis se sont encore réorganisés et qu'ils ont empêché l'arrivée des FACA dans la localité de Bukaranga et ses environs. Vraiment, ce qui nous fait un peu d'inquiétude dans cette opération à la Londo.
Mais monsieur le sous-préfet, le vrai problème, ça se situe à quel niveau?
Il y a les FACA à Bukaranga, il y a de cela plus de 13 mois. Il n'y a pas de problème parce que leur délai de redéploiement est expiré et que les relèves devaient venir de Bois pour pouvoir les relever. C'est ainsi à 30 km de Bukaranga depuis la date du lundi 7 septembre. Ces relèves qui étaient venus à bord plus de 6 véhicules, selon ce qui nous a été rapporté, sont tombés dans l'embuscade des groupes 3R, raison pour laquelle il y a eu échange de tirs entre ces deux groupes et que 4 véhicules de ces FACA se sont repliés sur bois et 2 autres ont été calcinés sous les armes des groupes 3R.
Donc ça veut dire que les groupes 3R sont toujours actifs dans ce secteur?
Mais ça fait de cela plus de 2 ans que quand même les FACA sont au niveau de Bukaranga, mais pas au niveau de Ban, pas au niveau de Degol. Pourtant, les localités sont vraiment évitées le pire. Malheureusement que les FACA se sont seulement installés à Pawa, à Bukaranga Centre et les autres points frontaliers de la République centrafricaine avec le Cameroun et le Tchad sont abandonnés, raison pour laquelle ces zones sont devenues poreuses à l'entrée par les ennemis.
Voilà, c'était là le sous-préfet de Bukaranga. Il a été urgent au téléphone par vous, Armand Ngendi. Monsieur Isaïe Banin parlait de cette opération à la Londo menée contre les positions des groupes armés 3R. Mais ce qui peut retenir l'attention dans ses propos, c'est que les éléments des 3R s'étaient déguisés en civil et c'était difficile pour les éléments de la MINUSCA de s'attaquer à eux. Et ça rejoint ce que vous venez de dire, monsieur Martin Ziguele, n'est pas aujourd'hui important pour la population locale également de s'impliquer dans cette opération pour son succès. Mais je reviens vers vous, monsieur Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Est-ce que en amont, la MINUSCA a pris ces dispositions-là pour se rassurer de cette stratégie des 3R avant de mener cette opération?
Ben écoutez, le 3R a pris la décision, je ne suis pas dans la tête de Sidiki, mais je pense qu'il a décidé d'opter pour cette réponse face aux défaites subies dans le cadre de cette opération. Il y a des bases qui ont été prises dans les principales localités de cette zone, Bessan, Gaoundaï, et ces hommes sont partis. Et comme l'a reconnu le sous-préfet, ils se comportent en lâche, en se mêlant aux populations pour tendre des embuscades. Qu'à cela ne tienne, l'opération, elle se poursuit. Tout à l'heure, Paul Beninga avait parlé de ce besoin de travailler avec les populations. C'est quelque chose qui est d'ailleurs inscrit dans le mandat de la MINUSCA, qui demande aux forces de la MINUSCA.
Mais vous avez dit travailler avec la population, monsieur Vladimir.
Dans le cadre d'échanges d'informations.
Mais effectivement, est-ce que vous ne pensez pas que cette population est prise en étau par les groupes armés? Mais après votre départ, c'est la population qui serait peut-être prise à partie par ces groupes armés.
Nous savons que ces groupes armés, que ce soit dans l'Ouampende, dans la Nanamambéré, mais ailleurs, avec Ali Daras, dont les hommes continuent à taxer les populations, s'en prennent aux plus faibles. Mais on est dans une guerre. Et il faut mettre tous les avantages du côté des forces de la République, c'est-à-dire les FACA, les FSI, avec l'appui de la MINUSCA. Nous travaillons pour la population. Si la population a des informations, qu'elle les partage, ce sont ces informations qui vont contribuer à sa meilleure protection. Juste un tout petit point tout à l'heure. Beninga avait dit que le message de la MINUSCA, c'était de faire revenir Sidiki dans l'accord de paix. Ce n'est pas le message de la MINUSCA, c'est le message des garants. C'est l'engagement également du gouvernement et de la MINUSCA aussi de faire en sorte qu'ils respectent ces accords. L'honorable Ziguele a parlé d'un groupe avec des hommes, avec des moyens conséquents. Lorsque vous avez en face quelqu'un, vous avez deux réponses possibles. Vous avez la réponse du dialogue, ce qu'on fait dans le cadre de l'accord, et vous avez la réponse de la force, qui est l'opération à la Londo. Donc, tout en menant cette opération, nous disons à ce monsieur, écoutez, revenez dans l'accord. Déjà, le Conseil de sécurité vous a inscrit sur la liste de sanctions. C'est un premier pas, il y aura d'autres pas. Mais vous avez encore le temps de revenir, parce que dans ce groupe, il y a aussi des Centrafricains. Je ne connais pas la nationalité de Sidiki, mais dans ce groupe, il y a des Centrafricains. Et vous savez qu'il y a un DDR qui est en cours, que ces gens armés se désarment et soient réintégrés dans la vie civile ou militaire.
Merci.
Et que les autres, s'ils ne sont pas Centrafricains, qu'ils prennent le deuxième air, c'est-à-dire le rapatriement.
Merci beaucoup, M. Fidèle Gwandika. Rapidement, pourquoi aujourd'hui, c'est la MINUSCA qui se met au premier rang, alors que fait le gouvernement face aux agitations de groupes armés, d'une manière rapide?
La MINUSCA ne se met pas au premier rang. Ce sont les FACA qui se mettent au premier rang, appuyés par la MINUSCA. La MINUSCA a un mandat. La MINUSCA n'a pas reçu un mandat pour venir faire la guerre aux Centrafricains qui ont pris les armes parce que 20 ans auparavant, 30 ans auparavant, ils ont été négligés, ils revendiquent une justice sociale. Ces gens-là se sont revendiqués pour prendre les armes. Et donc, ce n'est pas à la MINUSCA de prendre le devant. Et je dis, le chef suprême des armées, ce n'est pas un vent en guerre, puisque les groupes armés, ce sont nos frères et sœurs qui se sont fâchés et qui se sont rebellés.
Mais vous vous souvenez que ces derniers temps, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que
il y a un accord.
Abbas Sidiki est un étranger. C'est ce que les gens disent.
Les gens disent que Abbas Sidiki était un étranger, que Daras est un étranger, que Al-Khatim était un étranger, que Abakar Sabo était un étranger, que Nimeri,
Matar,
50-50, tous ces gens-là sont des étrangers. Mais ce sont des Centrafricains. Ce sont ceux qui voulaient prendre le pouvoir par la force qui ont ramené ces étrangers en Centrafrique et qui leur ont donné la nationalité. Les Abakar Saboun, les Niméré et autres, ils ont des matricules dans l'armée nationale. Depuis 1993, depuis le régime du MLPC, depuis le régime du KNK.
Et c'est dit qui ?
Jusqu'à aujourd'hui, la CELIC a pris le pouvoir et est restée 9 mois
aux affaires.
Et donc, cette CELIC avait fait dissoudre l'armée nationale. Et donc, ce gouvernement de CELIC avait toutes les latitudes pour donner la nationalité par décret. Monsieur Ali Daras a été nommé par décret chef de région militaire dans la Waka. C'était sous quel magistère ? C'était sous la gouvernance de Nicolas Tchangaï, qui était Premier ministre, avec tous les pouvoirs et de Dotodia. Et voilà, l'arrivée de ces mercenaires-là, c'est dû au phare 2011, où Martin Ziguele, Nicolas Tchangaï et autres ont ramené pour faire dégager le président Bozizé. Voici les conséquences.
Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Martin Ziguele, vous continuez en tant que député de Bukaranga de réclamer que Abba Siddiqui n'est pas centrafricain. Il faut l'arrêter, il faut le traduire en justice, c'est ça?
Non, je voudrais rapidement dire à Guadjika de ne pas se fatiguer. Il ne me déstabilisera jamais. Il ne me poussera pas à adopter la même démarche que lui. Il fait de la provocation, c'est absolument ridicule.
Absolument
pour
pas,
quelqu'un
monsieur.
De son niveau, parce que tout ce qu'il dit est faux. Ah bon? Et deuxièmement, c'est absolument faux. Donc, et deuxièmement, je n'ai pas signé un accord avec Guadjika. J'ai signé un accord politique avec Touadéra. Je ne sais pas si c'est Touadéra qui vous a dit de venir me demander ici, est-ce que je ne lui ai pas parlé. Renseignez-vous auprès de lui. Ce que je suis en train de dire, c'est des choses que j'ai dites à plusieurs reprises aux personnes indiquées avec qui j'ai l'habitude de traiter. Vous êtes chargé des ONG à la présidence. Je ne suis pas une ONG, je suis un parti politique, un responsable politique.
Je ne suis pas chargé des ONG, monsieur Martin Ziguele. Je suis chargé des organisations nationales.
Je ne me laisserai pas distraire par mon frère Guadjika que je connais très bien. Je ne me laisserai pas distraire. Ce que je veux dire, c'est que la nationalité d'un pays s'acquiert ou se reconnaît selon des dispositions de la loi. S'il y a contestation, c'est le juge qui détermine. C'est pas à moi, Martin Ziguele, de venir dans un débat dire voilà ceci cela. Ce que je sais, c'est que Abba Siddiqui n'est pas centrafricain. Ali Darassa n'est pas centrafricain. Mahamat Al-Khatib n'est pas centrafricain. Et le fait qu'ils aient été recrutés ou pas à un moment donné, ça ne confère pas la nationalité. Et si moi je vais en France demain et que je me fais recruter, je ne sais pas moi, dans la fonction publique française, je ne peux pas dire que je suis français. Moi, je n'ai que la nationalité centrafricaine. Il faut que je demande et que je l'obtienne dans les conditions prévues par la loi. Je parle face à un docteur en droit, et il y a des démarches, etc. Et ça se prouve. Et donc, je ne veux pas entrer dans ce débat parce que le sujet dont on parle est très important. C'est celui de la vie. Parce qu'au moment où vous et moi, nous sommes en train de parler, ceux qui ont été blessés dans l'embuscade à Saint-Ouen, ils sont à l'hôpital, ils sont en train de souffrir. Et je pense que lorsqu'on parle de la vie de nos compatriotes, des jeunes qu'on envoie sur le front pour protéger notre pays et nous protéger, il faut donner un peu de hauteur au débat. Donc je ne suis pas un comédien.
Très rapidement.
Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Je suis là pour qu'on parle de cette situation-là. Et qu'est-ce que nous pouvons, comme contribution, apporter à ceux qui prennent les décisions
pour résoudre ce problème? Merci beaucoup. Paul Kassam Beninga. Vous voulez réagir d'une manière rapide?
Je voudrais tout à l'heure réagir rapide, sur les propos de Vladimir et puis après sur les propos de Fidel Ngwandika. Non, Vladimir, vous connaissez la nationalité de Siddiqui. Siddiqui est camerounais. Ali Daras est nigérien et Al-Khatib est tchadien. Donc ce n'est pas un secret. Et vous avez dit quelque chose qui me paraît extrêmement dangereuse. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ce n'est pas la MINUSCA. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce sont les garants. Appelez ça comme vous voulez, garants, ainsi de suite. Mais le fait de vouloir ramener Siddiqui dans l'accord politique pour la paix et réconciliation, pour moi, est une faute, est une erreur que vous ne devez pas commettre. Je vais vous dire pourquoi. Ce que vous avez fait en démantelant les bases de Siddiqui, en réduisant les capacités de nuisance de Siddiqui, vous envoyez un message à Al-Khatib, vous envoyez un message à Ali Darassa. Même si vous n'avez pas réussi jusque-là à décapiter le mouvement 3R, mais c'est au moins un message qui dissuade Al-Khatib et Darassa. Alors, si vous frappez, vous démantelez les bases du mouvement 3R et vous ramenez Siddiqui dans l'accord politique pour la paix et la réconciliation, ça fera jurisprudence. Demain, lorsque vous allez être appelé à frapper, je le souhaite d'ailleurs, à frapper Darassa, à frapper Al-Khatib, à un moment donné, ils vont se retrancher quelque part et ils vont dire, nous allons revenir dans l'accord politique pour la paix. Non, libre, ils ont signé cet accord. Libre, Siddiqui a dénoncé cet accord et il doit tirer toutes les conséquences de ces actes-là. C'est extrêmement important de le souligner. Alors, M. Ngwandika fait de la diversion et de l'amalgame à la fois. On ne peut pas aujourd'hui dire que avec Ali Darassa, ils ont la nationalité. Non. Je vous assure, l'État est une continuité. Arrêtons à un moment donné d'accuser les autres et de ne pas voir ses propres responsabilités, M. Ngwandika. Je suis d'avis avec vous. Il pourrait être vrai que les nationalités ont été attribuées
par
le biais d'un décret à Sidiki ou à Darassa ou à Al-Khatim. Je n'ai pas le preuve. C'est pourquoi je suis le conditionnel. Mais si c'est avéré à votre niveau, vous pouvez prendre un décret pour rapporter le décret qui a nommé.
Mais Madame Catherine Samapanza a précisé qu'elle a rapporté ce décret de Ali Daras.
Voilà. Alors s'il y a un décret,
pas le décret de nationalisation.
Décret.
Peu importe.
Chef de région militaire.
Voilà. Peu importe. Si un décret a été pris pour nationaliser, quelles sont les dispositions de la loi concernant la nationalité en République centrafricaine? Alors allez lire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas juriste que vous ne pouvez pas lire. Je profite pour dire au président que je suis pas docteur en droit, mais je suis plutôt docteur en sciences po. Et donc, c'est extrêmement important. Même si vous n'êtes pas juriste, vous pouvez lire le texte. Alors, si par le biais d'un décret, on a noué quelque chose dans la République, par le biais d'un autre décret, on peut rapporter le décret qui nous pour dénouer cette affaire-là. Donc, ne faisons pas de diversion et de l'amalgame. Le fait toujours d'accuser les autres et ne pas voir sa propre responsabilité, pour moi, est une fuite de responsabilité.
Okay, merci beaucoup, Monsieur Paul Cresson Beninga, Monsieur Martin Ziguelé. Je me tourne vers vous. Si aujourd'hui cette insécurité ne cible que certaines régions, hein, comment pouvez-vous le commenter? Parce qu'il y a des groupes armés dans le centre, à l'est, au centre-nord également, mais beaucoup plus. Cette insécurité, et surtout les 3R, sème la désolation beaucoup plus dans Loampindé et la Nana Mambiré. Comment pouvez-vous le commenter aujourd'hui?
Et surtout dans votre circonscription.
Non, je crois que la question que vous posez, c'est une question qui s'explique par plusieurs phénomènes, par plusieurs facteurs. Si vous voulez, le développement qui a démarré avec Sidiki, le récent développement est dû quand même au fait qu'il y a eu une cérémonie de mise en place des USMS à Bois. Et à l'issue de cette cérémonie, il a disparu dans la nature. Et après sa disparition, il a posé directement des actes criminels contre un détachement des FACA et de la MINUSCA. Vous vous rappelez, il y a eu des morts, des FACA qui étaient morts. Et face à ce comportement, n'est-ce pas, les forces coalisées, MINUSCA, FACA, ont décidé de lui répondre également par la force. Et d'engrenage en engrenage, nous sommes arrivés à cette situation. Et donc, moi, je ne suis pas comme Ngwadika, je n'invente pas des accusations contre les gens. J'entends beaucoup de gens dire que l'agitation ou l'insécurité dans Loampindé a été encouragée ou manipulée par le pouvoir, mais je ne m'avance pas dans de telles accusations parce que je n'en ai aucune preuve. Et puis, je suis quelqu'un qui a une éducation et avant d'accuser quelqu'un, il faut que je sois sûr que ce que je suis en train de dire, si on m'en demande des preuves, je peux en donner et de convaincantes. Parce que moi-même, en tant qu'individu, j'ai tellement souffert de fausses accusations que je ne me précipiterai pas pour dire, par exemple, que telle personne a fait telle chose si vraiment je n'ai pas une preuve matérielle. On entend des choses, on entend des rumeurs, mais il n'y a aucune preuve. Mais moi, ce que je souhaite, ce n'est pas simplement la sécurité pour Loampindé parce que je suis député dans une circonscription de Loampindé, non. Je veux la sécurité pour la RCA. Il y a 3 jours, j'ai appris que les gars de l'UPC s'approchaient à moins de 3 km de Obo. Mais je suis président du MLPC, j'ai des camarades militants qui sont à Obo, qui m'appellent tous les jours pour me dire comment on fait. Donc c'est une situation nationale. Même s'il y a une amplification locale, c'est une situation nationale. Et je pense que le but de l'émission, c'est peut-être de contribuer à la réflexion de ceux qui prennent les décisions pour qu'ils voient comment on peut arriver à la paix pour tout le monde.
Merci beaucoup, M. Fidèle Gwandika. Pourquoi le gouvernement ne communique-t-il pas sur le bilan de l'opération à la Londo? Il y a vraiment du silence total de la part du gouvernement sur cette situation. Or, il y a aussi des informations que vous pouvez aussi donner à la population pour étayer sa lanterne.
Le gouvernement communique et c'est vous qui ne cherchez pas les informations, c'est tout.
Nous cherchons des informations, donnons des informations en temps réellement sur le terrain et ce qui se passe à Bang, à Ban, à Ngaoundaï, c'est nous qui donnons les informations.
Ah ben alors, très bien.
Monsieur Paul Cresson Beninga.
Non, je voudrais souligner juste en suivant Monsieur Ngwandika, je voulais juste rappeler l'importance de la communication, notamment de la communication politique lorsqu'on est dans une guerre.
Merci.
La guerre, on la gagne lorsque on maîtrise également la communication. Et donc, lorsque un membre du gouvernement ou un membre du cabinet du président a l'opportunité de communiquer sur les opérations qui se font, qui se déroulent en ce qui concerne la lutte contre les bandits armés, les mouvements armés, il ne faut pas louper l'occasion effectivement de communiquer. C'est extrêmement important. Ça affaiblit également l'ennemi. Et donc, Monsieur Ngwandika, si vous avez l'occasion de communiquer sur ces opérations, ne faites pas la rétention d'informations. C'est extrêmement important. Ça participe également de des stratégies voilà. qui permettent effectivement de gagner la guerre.
Effectivement, vous avez vu, hein, nous avons invité le ministre conseiller en communication du Premier ministre, il n'était pas venu.
Mais je suis là, mon ami, je représente l'exécutif.
Mais c'est ça, c'est
l'exemple. Je représente les pouvoirs publics.
C'est l'exemple, parce que vous voyez, à chaque fois, c'est vous.
Voilà. Pour cette émission d'aujourd'hui,
voilà.
Vous m'avez appelé.
Que, parce que celui qu'on a invité n'était pas de notre.
Je représente le gouvernement désormais, faites-moi appel et je viendrai.
Mais vous confirmez que les gens ne communiquent pas sur la situation qui se passe sur le terrain.
Ok, d'accord, merci Armando. On avance dans le débat, mais bien avant de continuer, je vous propose d'écouter un extrait du général Sio qui est porte-parole des 3R. C'est vous qui l'avez joint au téléphone.
Il est général.
C'est un aveu, selon lui, dans le groupe armé. Écoutons un de ses extraits.
Vous savez que ces derniers temps, beaucoup de rumeurs circulent au nom des 3R. Comme récemment, vous avez écouté les incendies des véhicules civils des commerçants vers Ossantélé, alors que ce n'était pas vrai. Les 3R n'ont pas des éléments là-bas. Après quelques mois, on dit que c'est les 3R. Ça, ce sont des fausses accusations. Et la ville de Bo n'est pas encerclée par les éléments des 3R. Non, il n'y a pas des éléments des 3R là-bas. Je pense qu'il n'y a pas des éléments qui ont encerclé la ville. Ça, c'est, je vous ai dit, ce sont des fausses rumeurs.
Et pour l'embuscade tendue au FACA mercredi dernier, non loin de Bukaranga, à l'entrée de Gaulle, vous refusez cela?
Au fait, à ce niveau, il y avait des pages qui étaient aussi en train de faire un mouvement pour rencontrer le déplacement des FACA. Ils ont, selon les informations qu'on a reçues aussi, ils ont essayé de tirer. Après, il y a eu une riposte et ça a causé maintenant le combat.
Ok, merci. Là, vous venez d'écouter... Général Sio, je vous vois tiquer M. Paul Kassan Beninga, mais il se dit général dans le groupe armé 3R, mais il y a une partie d'aveu, c'est vrai qu'au début il a nié, mais il y a une partie d'aveu, s'il accepte que c'est eux qui ont tiré sur les forces armées centrafricaines à Saint-Antoine, est-ce que ce n'est pas s'attaquer aux institutions de la République centrafricaine et quelle réponse faut-il aujourd'hui face à ces agissements des éléments du groupe armé, M. Vladimir Montero?
Ben écoutez, on parlait tout à l'heure de communication, vous avez entendu ce porte-parole en train de communiquer, d'essayer de passer pour une bonne action, pour une réaction de défense, de se protéger face à d'éventuels tirs des FACA, mais c'est leur campagne. Pour nous, les choses sont claires. Tuer les populations, le 3R, empêcher l'autorité nationale des élections de mener ses opérations d'enrôlement, le 3R occuper des zones qu'il n'était pas censé occuper parce que signataire de l'accord de paix. Donc, nous allons réagir. Et ce déploiement des FACA va se poursuivre, comme l'a dit tout à l'heure M. Gwandika. Il y a cet effort du gouvernement pour projeter les forces de défense et de sécurité. Ça va continuer, que les 3R le veuillent ou non. Il y a une autorité dans ce pays et cette autorité est en train de faire son travail pour sécuriser les populations. Ces messages comme quoi le 3R n'a fait que réagir, non. Vous le voyez ailleurs, leur réponse brûlée, des véhicules brûlés, c'est une façon de brûler l'institution. Eh bien, face à cela, nous allons réagir. Tout à l'heure, également, M. Beninga avait parlé de communication, besoin rapidement. De communication. Oui, tout à fait d'accord, c'est pour ça qu'on communique, mais aussi de la part de toutes les institutions, y compris de la société civile, de communiquer sur le bien fondé de cet accord de paix. L'accord de paix est extrêmement important. Même s'il y a des groupes armés qui le violent, il faut les pousser à revenir. C'est pour ça qu'on veut que Sidiki revienne, tout en le tapant, c'est-à-dire... Tout en le
jusqu'à
tapant,
un nouveau où les groupes armés s'attaquent même aux institutions de la République.
Non, écoutez.
Et même si les 3R tuent, continuent à piller, continuent à violer.
Écoutez, nous n'avons pas cessé de mener cette opération. Face à ces violences du 3R, nous répondons par la violence légale, par la violence légitime des FACA et des casques bleus. Mais en même temps,
oui.
Parce qu'il faut lire ce que prévoit l'accord de paix. L'accord de paix prévoit le DDR, le désarmement des combattants. L'accord de paix prévoit le déploiement de l'État, toutes les institutions de l'État. Abandonner l'accord de paix serait revenir à une situation antérieure à celle qu'on a trouvée en 2016. C'est pour ça qu'il faut à la fois cette politique de carotte à travers l'accord et de bâton dans le cadre du mandat de la MINUSCA. On a les moyens et ils sont à la disposition du peuple centrafricain.
Monsieur Paul Kassan Beninga, aujourd'hui, face aux agissements de groupes armés et beaucoup plus des 3R, qu'est-ce qu'il faut faire comme réponse pour vraiment arrêter l'hémorragie?
Merci. Je l'ai dit tout à l'heure ici, mais je vais répondre à votre question. Je voudrais intervenir sur le discours de Sio qu'on appelle général. Il n'en est pas un de mon point de vue. Et
ça, selon lui.
Oui, et revenir sur ce que vous dites par rapport à l'attaque du mouvement 3R. Non, Sio n'est pas un général. Il n'y a pas de débat là-dessus. On sait comment on devient général. On connaît le profil de ces acteurs. Ce n'est pas un général. Il ne faut pas donner de l'importance plus qu'il en faut à ces mercenaires. Ça, c'est extrêmement important de le souligner. Et vous avez vu que les éléments du mouvement 3R font dans la manipulation de l'information. Et c'est ce que je suis en train de reprocher à nos institutions. Parce que la guerre, on la gagne également sur le plan de la communication. Sio, c'est
pertinemment que ce sont les éléments des 3R qui ont attaqué les positions des forces armées centrafricaines. Ils nient. Mais c'est des gens qui ne sont pas plus intelligents qu'ils croient.
Ils nient la situation de l'attaque des
embuscades. Il y a contradiction dans ce qu'il dit. Il nie et plus tard, il essaye d'avouer quelque part qu'ils ont tiré sur les FAKA. Et c'est ce qu'on observe même avec les 3R autres. Quand il y a un événement, les 3R pondent des communiqués, des déclarations pour dire que non, ce n'est pas nous. Et vous allez voir deux ou trois jours plus tard un élément de ces mouvements-là revendiquer l'action qui a été posée par ces éléments. Donc, c'est le mode de fonctionnement et d'opération de ces mouvements-là. C'est extrêmement important à comprendre ça lorsqu'on veut communiquer contre ces mouvements-là. Maintenant, vous avez dit, est-ce que cette attaque-là, c'est une déclaration? Non, c'est une déclaration de guerre. Et si la MINUSCA, le gouvernement, comprennent qu'il s'agit là d'une déclaration de guerre, ça permet de légitimer, de légaliser les ripostes du gouvernement et de la MINUSCA contre ces mouvements. Mais si on dit, bon, on a attaqué, non. Lorsque les institutions sont attaquées, l'armée est une institution. Lorsque les institutions sont attaquées, il faut considérer, et surtout par des forces étrangères, ça veut dire qu'il s'agit là d'une guerre. Ça permet à l'État de riposter. Si on sous-estime ces attaques en disant que non, ce sont des petites choses, à un moment donné, la riposte ne peut pas être à la hauteur de ces attaques-là. Et lorsqu'on riposte, c'est un message qu'on envoie également aux autres groupes armés. C'est extrêmement important. Rapidement. Si on n'arrive pas à le comprendre, ça pose problème. Maintenant, vous avez posé une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut frapper Sidiki. C'est là où j'ai un total désaccord avec la MINUSCA et peut-être dans une moindre mesure avec le gouvernement. Sidiki, sa place n'est pas là. D'ailleurs, les Nations Unies l'ont démontré. Il a été déjà mis sur la liste des gens qui sont sanctionnés. Pourquoi continuer à lui donner la carotte? Ce d'autant plus qu'il n'en veut pas.
Merci beaucoup. Martin Ziguele, vous persistez et vous signez que Sidiki doit être arrêté, traduit en justice, c'est ça?
Vous savez bien que Sidiki, selon l'historiographie, c'était un coupeur de route au Cameroun. Et il s'est échappé, semble-t-il, de prison pour se retrouver dans cette zone-là. Il n'a pas d'autre solution que de tenter de semer le désordre pour survivre dans le chaos. Donc, plus que hier, plus que ce matin, je suis convaincu qu'il faut en finir militairement avec Sidiki. Pourquoi je dis ça? Mais moi, je suis centrafricain. Les enfants qui sont dans les forces armées centrafricaines, qui tombent dans des embuscades, qu'on blesse et tout, ce sont mes propres enfants. Ce sont les enfants de mes compatriotes. Comment je peux justifier le fait que quelqu'un qui leur donne la mort puisse être traité amicalement? Comment je peux expliquer ça? Donc, je suis pour l'accord de paix. Avant le début de cette émission, j'ai réaffirmé dans une discussion privée avec Beninga que je soutiens l'accord de paix. Mais c'est comme j'accepte les lois de la République. Si je viole les lois de la République, parce que j'accepte les lois de la République, je ne dois pas être sanctionné. Il doit être militairement frappé et réduit. Ce qu'il reste à faire aujourd'hui, c'est que les forces internationales associent les forces armées centrafricaines et que les populations aident par les renseignements pour dire là où les gens se cachent, pour que ce problème-là soit réglé. C'est une guerre national, avec un appui international, avec le soutien de l'ensemble de la population. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Regardez le Tchad, regardez le Cameroun, regardez comment ils traitent leurs différends. Nous ne sommes pas le premier pays au monde, ni en Afrique, à vivre une situation de guerre civile. Mais il y a eu des manières de régler ces questions-là. Et je voudrais enfin ajouter que je suis membre du comité exécutif de suivi de l'accord de Khartoum et M. Montero, de temps en temps, on se retrouve là-bas. Ce que je dis ici, c'est ce que je dis avec beaucoup plus de détails dans le cadre du comité exécutif de suivi. Donc, je crois que nous sommes tous pour la paix et chacun d'entre nous doit aller au fond de la réflexion pour donner les outils intellectuels et les outils concrets pour que cette situation soit réglée.
Merci beaucoup, Monsieur Martin Ziguele. On s'approche vers la fin de cette émission, le débat politique de Radio Nikeluka. Monsieur Fidèle Nguandika, quelle réponse faut-il aujourd'hui face aux agissements des groupes armés et pourquoi la réponse du gouvernement tarde à venir?
À écouter Monsieur Martin Ziguele et Christian Beninga, on est tenté de croire que la République centrafricaine est en guerre contre un autre pays étranger. Citer le Cameroun, citer le Tchad et le Cameroun sont en guerre avec Boko Haram. Ce n'est pas la même chose en République centrafricaine. Et en plus, nous sommes dans un pays pas de dictature. Nous avons un président élu par le peuple, qui a le souci de son peuple, qui veut que le pays soit pacifié, mais pas dans une guerre fratricide. L'accord de paix est là pour gérer toutes ces histoires-là. Et donc, dire que M. Sidiki est inscrit sur la liste noire des Nations Unies et que c'est un signal fort pour les autres, mais moi je veux dire à M. Ziguele, à M. Christian Beninga, ici présent, qu'il y a plusieurs personnalités qui sont inscrites sur la liste noire des Nations Unies, qui friment dans Bangui et qui ont même déclaré leur candidature à la présidence de la République. De la République, hein.
Et ça, c'est
voilà, donc il n'y a pas deux mesures de quoi. Donc, s'inscrire sur la liste noire des Nations Unies ne dit pas que, bon, il faut aller tout de suite tuer ces gens. L'accord de paix demande à ceux qui les violent de rentrer dans la République pour qu'on aille jusqu'à la pacification.
Et ça, c'est toujours dans la politique de la main tendue du président de la République, c'est ça?
Le président de la République, je le redis encore, ce n'est pas un vent en guerre. Il y a un accord signé entre le gouvernement et les groupes armés. Les groupes armés se valent, hein. Il n'y a pas un autre groupe armé plus puissant ou plus respecté que d'autres. Parmi les 14, il y a les anti-Balaka, il y a les 3R, il y a les RJ Sayo qui a déposé les armes. Ce sont tous des groupes armés.
Mais pourquoi c'est dit qu'il ne dépose pas jusqu'alors les armes?
Mais il est en train de subir les conséquences.
Merci beaucoup. Voilà. Et c'est la fin de ce débat politique sur Radio Ndekeluka. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés dans cette émission Patara. Nous avions débattu des agitations des groupes armés à 3 mois des élections législatives et présidentielles de décembre prochain. Et nos invités était Martin Ziguélé, député de Bukaranga 3 et président du mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci, merci beaucoup pour ce débat enrichissant.
Monsieur Fidel Guantika, ministre et conseiller spécial du président de la République. Monsieur, merci aussi à vous.
Je suis ministre conseiller spécial du président de la République, chargé des relations avec les organisations nationales qui comprennent la société civile, les partis politiques et toutes les associations.
Merci.
Autant pour moi.
Et puis, M. Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Monsieur, merci aussi à vous.
Merci, c'est toujours un plaisir.
Docteur Paul Cressant Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
À la mise en onde, c'était le service de Herman Nambona et Jean Stéphanie Bokula, toute l'équipe Patara, Claire Ndobia Samba, Stéphane Flemalé, Armand Oyangindi et moi, Rodrigue Leroy Benga. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine avec une nouvelle thématique.